Alors aujourd'hui, Dalziels, dans les nouvelles du 9e art, tu nous parles manga, shonen. J'insiste sur le shonen puisque c'est clairement pas le style que tu affectionnes le plus dans la bande dessinée japonaise, mais tu en as quand même, que tu apprécies, et tu en as choisi un aujourd'hui. Et quel est-il ?
Alors, je vais vous parler de Soul Eater. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix ? Je pense qu'effectivement, c'est là le plus intéressant.
Parce que je le déteste et je voulais l'écraser.
Non, je vous ferai une chronique d'un truc que j'aime pas un jour, mais pas aujourd'hui.
Non, t'as un truc
ce jour n'est pas arrivé,
tout le monde aime, et que tu expliques pourquoi t'aimes. Ce serait intéressant de voir justement un truc...
Je peux vous trash-talker Naruto pendant une heure, il n'y a pas de souci.
Hein, non, on va pas faire ça.
Sans aucun problème.
On fera une émission spéciale un jour. Mais là, voilà, donc, c'est un shonen qui a quelque chose de différent, en fait.
Voilà.
C'est pour ça que j'ai
lu, pas tout,
exactement.
Mais...
Je vous ai choisi, du coup, un manga, un shonen, et je vous ai choisi un shonen connu. Donc, que des choses que je ne fais pas d'habitude dans cette chronique.
Voilà, oui, je alors, change un peu. Pour ceux qui ont jamais vu la chronique, bon, parfois, il y a des classiques, tu nous sors des comics... par exemple, qui sont des trucs qu'il faut avoir lus, qui sont des classiques.
Vous avez parlé d'un Goldorak, mais c'était plus pour sa sortie.
Voilà, mais souvent, tu nous sors des trucs indés.
Je suis plus généralement dans l'indé,
la pépite. Des pépites, voilà,
des bibliothèques.
Exactement. Là, je vais vous prendre un truc connu. Et je vais vous prendre un truc qui est un shonen. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce qu'en fait, cette chronique, ça ne va pas être réellement sur Soul Eater, ça va être sur pourquoi Soul Eater est un bon shonen. Et qu'il n'y en a plus tant que ça, des bons shonen.
Mais ça date, hein.
Ça date, bien sûr. Soul Eater n'est pas sorti hier, quand même. C'est déjà une œuvre qui a un petit peu de temps.
2004, putain.
De 2004, exactement.
Ah oui, les premiers temps. D'accord.
Et
c'est
d'ailleurs,
pas, c'est pas récent. Ouais.
Pour tout faire à l'envers dans cette chronique, je ne vous ramène pas non plus les premiers tomes avec moi, mais je vous ramène les derniers, du coup, pour changer un petit peu. Voilà. Et j'insiste sur ce parce dernier que... tome, et on va commencer par son numéro.
Parce que le...
Ici, il n'y a pas marqué 178 424.
Effectivement, il y a écrit 25.
Il a écrit 25.
Hein. Il est sorti quand, le dernier tome ?
Alors ça, par contre, je dois t'avouer que je n'ai pas la date de sortie du premier.
Non, je veux dire, c'est fini, la série est finie.
Oui, bien sûr. Par contre, la date de sortie du dernier, je dois t'avouer que je ne l'ai plus.
Et donc, c'est numéro 25. Évidemment, on parlait en intro ou off, peut-être.
2014.
Troyer, toi, c'est le numéro 101 que tu venais d'acheter.
Non, One voilà. Piece, c'est un moment que j'achetais plus. Mais ouais, One Piece, donc, c'est le 101 qui est sorti là.
Là.
Ouais, on va dire en gros là, début mai.
Exactement. Et du coup, là, je l'ai choisi déjà pour son format restreint. C'est un shonen qui tient en 25 tomes,
alors,
ce qui est très, très, très raisonnable.
C'est juste un shonen qui n'a pas marché et qui, du coup, raccourci sa série, ou c'était prévu au départ ?
Alors, non, c'était prévu par l'auteur. Ceci dit, on le connaît, normalement, les maisons d'édition, au Japon notamment, ont tendance à rallonger à l'infini la série. Alors, je n'ai pas d'habitude... Voilà, je ne suis pas aussi expert de Soul Eater que d'autres œuvres, donc je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Est-ce que l'auteur s'est vraiment su s'affirmer dans la maison d'édition ou pas ? Ou est-ce que tout simplement le style atypique de Soul Eater n'a pas le succès non plus d'un Naruto, d'un One Piece et autres, et du coup la maison n'a pas continué ?
Ouais,
je ne sais pas.
Non plus,
parce qu'il n'avait pas un cancer, il savait qu'il allait crever et...
Je ne sais pas, en tout cas, toujours est-il que ça s'arrête en 25 tomes et c'est très bien parce que l'histoire, et on va commencer par là, n'a pas de ralentissement pourri qu'il y a dans les autres shonen, n'a pas de scène qui s'éternise à rallonge qu'on n'en peut plus
on
de
voit
tirer
très bien,
sur l'histoire.
On voit très bien de quoi tu parles.
Et encore, voilà, en bouquin, ça va quand même, vu que. Mais c'est vrai que si encore, on fait la version animée, je ne parlerai pas de sa version animée, mais les versions animées, forcément, bon, bah, on tire, voilà, on tire.
Je parlerai de la version animée de Soul Eater à toute fin, si tu veux, parce que je vais quand même en dire un mot, parce qu'il y a eu une adaptation animée. Donc, Soul Eater, c'est écrit par ce monsieur, du coup, ici, juste là, donc de son petit nom Atsui Okubo, et qu'on connaît plus particulièrement pour avoir déjà travaillé sur Get Backers, alors pas en tant qu'auteur directement, mais en tant que premier assistant sur la série Get Backers, et on le sait au Japon.
Je connais pas celle-là.
Voilà, mais on le sait au Japon, généralement, les premiers assistants, c'est un peu comme les nègres, en fait, dans la littérature. C'est-à-dire
c'est
que c'est parfois
eux
qui écrivent un peu plus que. Voilà. Et. Une série très connue. Et du coup, il va sortir cette série qui est Soul Eater et qui va trancher avec ce qu'on attend du shonen. Ça va devenir un blockbuster colossal au Japon, très rapidement sur les premiers tomes. Donc il y a eu un énorme succès, et c'est là où je me demande comment il a négocié que ça reste en 25 tomes. Honnêtement, j'ai pas l'histoire. Pour une fois, je pourrais pas vous raconter l'anecdote. Je vais me concentrer plus sur l'œuvre elle-même que sur ce qui l'entoure. Mais je serais curieux de me renseigner à l'occasion comment il a réussi ce petit prodige. En tout cas, l'histoire de base, je vous le dis, c'est un speech pourri. Et ça, je crois qu'absolument tout le monde est d'accord. Par contre, ça a été vendeur au Japon. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'au début... ce speech un peu pérave lui a permis de passer dans le grand public japonais qui, sinon, je pense, il n'aurait pas eu l'accueil escompté. Et je me demande même si c'est pas son éditeur qui lui a dit « Mec, va falloir réviser ça, va falloir faire un speech un peu bon, voilà. » Et du coup, on se situe dans une école, oh, dis donc, très originale, avec des étudiants, dis donc, très originales, qui fonctionnent en binôme, les uns étant des chasseurs de sorcières, globalement, et les autres étant des armes, c'est des hommes-armes, en fait, qui donc peuvent se transformer, se métamorphoser à volonté entre l'apparence humaine, ou pseudo-humaine, on va voir, et une arme. Un flingue, une faux, une scie,
et un le style visuel aussi, ouais, avait vraiment...
On va y venir, parce que c'est évidemment...
Ça se reconnaît de loin, maintenant.
Exactement. Mais, voilà, restons de base, donc, c'est...
Moi, je trouve qu'on n'est pas loin un peu du style de je sais plus quel comics que tu nous avais proposé, qui était comme ça.
C'est bon.
Ça ressemblait à ça.
Vous allez retrouver un petit peu mes chouchous très vite en termes d'univers graphique. J'y viens après. Je termine juste sur le speech. Du coup, donc un speech un peu tout pourri sur on a des duos de personnages qui vont à l'école, qui essayent de devenir du coup... des bons éléments de leur école et de progresser dans les paliers, et du coup il faut qu'ils aient collecté un certain nombre d'armes pour que l'arme, du coup la personne qui incarne l'arme, évolue globalement, donne dans le mille. Donc du coup c'est un speech qui, de base, un petit pitch qui est vraiment pas intéressant, très peu aguicheur, on est dans le classique du shonen.
Mais moi, personnellement, que ce soit dans les jeux vidéo ou là-dedans, dès qu'il y a c'est un truc école où les gens... monte, c'est généralement un truc que je surkiffe ce côté concurrence, mais en général, je surkiffe ce côté où tu vois les évolutions des gens. Après, peut-être qu'il y en a qui font mieux que d'autres, mais ce côté de t'as un mec qui est pas fort, il arrive et il bat un mec plus fort, j'adore ça personnellement. C'est beaucoup de shonen, par exemple sportif, type Aishil 21, machin, où forcément le but c'est d'être plus fort que l'équipe, machin, où c'est très concret. Moi, c'est une mécanique que j'aime bien. Après, peut-être que j'ai pas vu ceux qui le faisaient mal. C'est-à-dire que moi, par exemple, cette mécanique, elle est Solitaire. Je disais Solitaire quand j'étais plus jeune. Pourquoi ?
Elle l'est dans Solitaire au début, et c'est justement, on va en parler après, elle n'est pas tout le temps dans l'œuvre, et c'est ça qui est hyper intéressant dans l'œuvre d'ailleurs. Donc, de base, je vous la fais courte, il y a trois gros groupes de héros, du coup. Le premier duo qui sont Maka et Sappho, donc qui sont les plus emblématiques, parce qu'en plus, une jeune fille maniant une faux, déjà, ça en jette un peu sur les couvertures. Ensuite, on aura le fils du dieu de la mort, puisque l'école est présidée par le dieu de la mort lui-même, du coup, avec ses deux flingues, qui sont deux filles qui incarnent les flingues. Et enfin, on aura le troisième duo, puisqu'il y en a un qui est un trio, mais bon, qui est, du coup, un ninja avec son arme changeante, qui est d'ailleurs l'une des rares armes à pouvoir changer de type. Elle n'est pas unique, elle peut faire autant la grenade fumigène qu'un shuriken, qu'une dague, et sa forme de base étant une dague d'ailleurs, et Tsubaki. Donc ça, c'est les trois duos. On est sur un pitch très basique, un peu mou du genou, c'est pas hyper intéressant. Du coup, on ouvre la première page du shonen, qu'est-ce qui marque ? L'univers graphique. Alors là, de suite, on va en parler, c'est inévitable, vous voyez pour ceux qui regardent moi la version YouTube, vous voyez les images défiler, et alors la claque graphique est gigantesque. On est propulsé dans un univers pseudo, presque burtonien, psychédélique, les proportions sont très déformées, on a des visages hyper présents, très souriants, macabres. Pas du tout ce qu'on attend d'un shonen d'habitude. Alors il y a quelques planches soft du coup quand même qui vont vous rappeler un petit peu l'univers shonen tranquille, notamment dans le trait humoristique, mais beaucoup de planches qui sont dans un univers très travaillé, très burtonesque. Je pense que c'est vraiment...
j'allais dire Tim Burton, exactement, on est vraiment dans ce style
très proche de Tim Burton. Voilà, on a tout qui est très personnifié, les armes sont des personnages, le soleil a une tête et des yeux, la lune a un sourire macabre et des yeux et un nez, tout est très très personnifié, donc tout a une personnalité, l'univers en lui-même vit, les bâtiments, vous verrez, il y a des tours, on dirait des nez, et il y a les fenêtres qui forment des yeux, tout a un trait de caractère dans ce univers.
Il y a un petit côté, dans sa version folie, Alice au Pays des Merveilles, un peu dans...
Exactement. Et c'est d'ailleurs, en fait, dès les premières pages, l'auteur vous installe ce qui va être le fil rouge de toute l'histoire. Puisque si, comme tout shonen, il y a des arcs scénaristiques, en fait, Souliter brille aussi par ça que tous les arcs sont extrêmement bien fusionnés dans le fil rouge. La plupart des œuvres shonen font ça de manière mal. Je suis désolé, hein, même les œuvres de référence, vous pouvez dire ce que vous voulez, les arcs sont très démarqués, souvent dû au fait que l'auteur ne savait même pas s'il allait continuer après l'autre arc aussi, hein, ça joue. Mais voilà,
en fait, les le arcs fil rouge, c'est il y a le personnage principal, quoi.
Voilà. Ici, le fil rouge est beaucoup plus intéressant puisque les arcs vont se fondre les uns dans les autres sans même qu'on le sente venir. Évidemment, on pourra repérer que de tel tome à tel tome, c'était tel méchant. Mais au final, on passe tellement de l'un à l'autre qu'on oublie le découpage en arc scénaristique. Donc ça, déjà, c'est une grosse force. Et ce fil rouge, qu'est-ce que c'est ? C'est la folie. Puisque l'incarnation de la folie va être le méchant le plus important, Azura, du coup, de l'univers de Souliter. Je peux pas vous spoiler pourquoi, puisque ça arrive dans le tout dernier tome, ici présent, et du coup, vous découvrirez, mais en tout cas, le personnage de la folie est hyper présent. Et du coup, dès le premier tome, en fait, l'auteur vous propulse dans un univers fou, et qui va devenir, au fur et à mesure des tomes, de plus en plus fou et de plus en plus sombre, puisqu'au fur et à mesure que la folie va prendre de l'envergure, les personnages vont être de plus en plus torturés, et vont être de plus en plus déments, sombres, vont faire ressortir leur mauvais côté. Donc, on passe d'une œuvre aussi où on voit beaucoup le soleil, qui est un peu shiny, c'est moins tramé, à une œuvre qui, de plus en plus, bah d'ailleurs, l'O0 vous montre les planches, qui est de plus en plus sur des noirs, des contrastes, des planches très très tramées, et on va avoir la lune qui est plus présente avec son sourire très macabre, qui elle-même, les bâtiments, même les plantes, même l'environnement, en fait, va devenir lui-même de plus en plus fou, de plus en plus dément. La folie s'installe tout au long des 25 tomes de l'œuvre. Et c'est hyper bien conduit par le trait de dessin de l'auteur. C'est juste incroyable, je trouve.
C'est vrai, c'est vrai que les visages ou des points de suture. Enfin, il y a plein de choses. Mais par contre, avec des personnages principaux, donc là qu'on voit, hein, pour ça encore une fois, qui sont soit sur le live, soit sur la version YouTube du podcast, on est sur des personnages principaux qui restent plus standards. Et c'est vraiment leur environnement et les autres personnages qui rentrent dans cette folie, ils semblent en fait dans le design très
alors, en fait,
parce qu'on est plus ou moins standard, on va dire.
On n'est pas si éloigné de Naruto là dans le design,
dans le design des personnages de base.
C'est là où justement l'auteur a joué sa carte, c'est que ça reste un shonen.
Oui.
Et du coup, il a joué la carte du ninja et de sa shinobi, enfin bon, de son arme, on va dire, du moins à côté. Et il a joué la carte du coup de l'étudiante avec sa faux. Donc on est dans les classiques japonais. Et au début, ils ont une tronche. Alors autant le ninja est carrément, comment dire, la marque genre. Ça, c'est pour le grand public. Maka est déjà un peu plus original comme personnage principal. Le fils du dieu de la mort aussi. Mais
oui. Qui est mon personnage préféré sur son caractère.
D'ailleurs, on va y revenir juste après dans la chronique, mais qui du coup sont des personnages designés au départ, en tout cas, de manière à plaire au grand public. Ce qui est très intéressant, c'est leur évolution dans l'œuvre, où le design va évoluer au fur et à mesure de leur progression dans l'œuvre, et du coup, va lui aussi se teinter de folie, et on va voir que si le ninja reste un petit peu la marque grand public, les autres personnages le sont de moins en moins, en tout cas. Mais au départ, il campe un visage plus ou moins standard des héros de shonen. Et ça, c'est sympathique. Pareil, l'histoire va vous prendre un peu par la main quand vous êtes un adepte de shonen et que vous voulez baigner dans l'univers Souliter. Vous n'allez pas être tout de suite non plus clashé dès le premier tome. Le premier tome est surprenant, mais il vous prend par la main également. C'est-à-dire qu'il va vous montrer un parcours initiatique, il va vous montrer un environnement de l'école avec une épreuve faite à l'école, quelque chose de très shonenisant, une équipe d'enseignement autour qui les met à l'épreuve, ils vont arriver à s'en sortir tout juste de l'épreuve. Le premier tome vous prend par la main si vous êtes habitué
un examen de shonen, des shunin de Naruto, enfin on est dans un
exactement.
Truc très standard.
On est dans un truc très standard, voilà. Donc l'œuvre va vraiment, pour moi, c'est vous tirer, en fait, dans son univers, en vous disant, vous êtes habitué des shonen, ok, très bien, on va pas tout de suite vous dérouter comme le font d'autres œuvres, et vous mettre, vous dire, c'est pas pour vous. Non, là, on va vous emmener dans cet univers. Il joue avec les codes. Et il va jouer de plus en plus. On le voit tout de suite. Dès le premier arc scénaristique, on est dans le plus pur code shonen. C'est-à-dire que Maka et Sappho vont continuer à évoluer, ils vont prendre une rouste, ils vont trouver le moyen d'être plus forts, ils vont gagner. Ok. Et bien, au fur et à mesure de l'œuvre, cette fameuse ritournelle des shounen, absolument insupportable au bout d'un moment, va être brisée. complètement dans Soul Eater, jusqu'au point que, à la fin, ce n'est pas le duo de héros initial, donc Maka et Sappho, qu'on voit le plus, qui sont en réalité les vrais héros de Soul Eater. La conclusion ne se termine pas sur eux, et ce ne sont pas eux qui battent réellement le méchant final. Et ça, rien que ça, ça tranche tellement avec tous les
Comment
autres shonen.
Comment c'est pas Sangoku qui tue tout le monde?
Exactement, ce n'est pas du tout la personne prédestinée à être un héros qui va être le héros à la fin. Et il ne gagne pas en puissance tout au long de l'œuvre. Arrivé à peu près la moitié de l'œuvre, vers le tome 10-12, ils vont arrêter de devenir de plus en plus forts réellement. Alors, va y avoir une espèce de moment où ils peuvent puiser dans la folie pour essayer de gagner en force, mais en devenant un peu plus dément, mais ils vont pas réellement devenir plus forts. Par contre, il y a d'autres personnages qui vont évoluer, il y a d'autres personnages qui vont prendre leur place, il y a la synergie d'équipe entre les différents personnages qui va se mettre en place. Il y a beaucoup, beaucoup d'esprit d'équipe. Soul Eater est très marqué par de l'esprit d'équipe. Ouais. Ça a l'air d'être important aux yeux de l'auteur, en tout cas, de mettre ça en avant.
C'est bien, ça me fait penser, je faisais référence aux animés, aux mangas ou autres de sport, ce côté cohésion d'équipe où on le voit forcément dans un animé, un manga de foot, de basket, de ce que tu veux, d'équipe. Et des fois, le vois moins dans un truc où le but, c'est de se taper dessus. Et enfin, tu le vois dans, entre guillemets, dans tous, mais c'est plus ou moins fait grossièrement, comme on le dit. Hein. Dans tous vos shonen où ils se tapent dessus, forcément, c'est il y a des potes et ils combattent ensemble. Oui, il y a un classique dans Dragon Ball. Oui, mais c'est moins fait. Je veux dire, quoique Dragon Ball a beaucoup ce côté solo, c'est-à-dire ce côté je veux me battre tout seul parce que ça prouverait que c'est moi le plus fort. Si tu m'aides, c'est que je l'ai pas vraiment battu comme il le fallait. Bon, ça c'est un classique Dragon Ball, mais là il y a vraiment un côté camarade. Enfin, en âge, ce serait des fins de collégiens, des lycéens, quoi. On va dire,
lycéens,
et ce côté camaraderie, je trouve bien faite et bienvenue. Enfin, pas niaise. Ça, je veux dire.
Ouais, je suis totalement d'accord. C'est pas trop nier et c'est vraiment amené de manière assez sympathique dans
l'œuvre.
Même
quand ils se trash talk,
ouais, ils se trash talk beaucoup les uns les autres.
Voilà, et c'est vraiment ce que tu verrais de, bah, je veux dire, entre potes, à la fois tu peux te soutenir comme te trash talker, ou même ça peut pas être choquant, ou même des fois le personnage peut. Enfin, je veux jouer avec les émotions des différents personnages et l'association est toujours très intéressante. On prend à chaque fois d'un personnage et de son arme, ils ont souvent des personnalités complètement différentes, quoi.
Oui, et d'ailleurs, ça c'est un peu le truc shonen aussi de l'œuvre, hein. C'est la fameuse arriver à s'accorder avec la personne avec qui on est obligé de travailler. Ouais, c'est un peu le message facile.
C'est un classique, mais ils le font bien, je trouve.
Ils le font bien, ils le font très très bien, et l'univers permet de bien le retranscrire.
Mais entre
l'autre caution,
ouais. Oui. Parce que vous parlez de shonen, des codes du shonen, du fait qu'en fait il les respecte. En dehors de quelques détails, il en joue.
Il les respecte, mais il va les adapter à son univers.
Mais justement, son univers, c'est la folie, le gothique, tout ça, enfin, ça va pas du tout avec le shonen, en fait. Donc, où est l'intérêt, en fait, d'utiliser les codes du shonen? Il aurait pu faire complètement autre chose.
Il aurait pu faire complètement autre chose. Je pense qu'il a vraiment voulu faire une œuvre accessible, en fait. En un peu comme Alice au Pays des Merveilles, la comparaison est intéressante, ou un peu comme Tim Burton, qui d'ailleurs a traité Alice au Pays des Merveilles en film. Hein.
C'est pour ça que je fais cette référence là.
Exactement. C'est un peu de la même façon. C'est-à-dire que il y a ce côté, on te prend par la main et on va t'emmener dans la folie petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, c'est un conte, c'est une œuvre globalement mignonne, c'est un shonen que t'as l'habitude de voir, et petit à petit, on va t'amener vers une œuvre plus mature, plus sombre. Mais je pense qu'il avait aussi cette volonté d'avoir un traitement humoristique tout au long. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour, même dans le dernier tome, qui sont pourtant les plus sombres.
Humour et d'art.
Et, exactement. D'ailleurs, ça se voit même aux couvertures, si je peux vous les trouver. Voilà, je vais vous en donner quelques-unes, puisque les couvertures deviennent de plus en plus sombres, sauf la dernière qui est blanche.
C'est marrant. Il y a ce côté, alors les deux, aucun des deux, sur ce côté, pourquoi ajouter du shonen, bah, ça se vend plus. Donc il y a ce côté réaliste aussi, et il y a ce côté de bah je veux amener mon univers au grand nombre, bah faut forcément que
c'est un format grand public.
C'est-à-dire si tu veux parler de philosophie à des jeunes, ben t'adaptes un petit, tu vas peut-être intégrer du YouTube ou du jeu vidéo dans la philosophie, et du coup je m'y intéresse.
Voilà. Et la caution humoristique joue beaucoup là-dessus, en fait, puisqu'elle vient alléger un univers qui est très sombre. de base. Et puis ça lui permet aussi d'avoir ce côté décalé, parce que Soul Eater se veut résolument décalé par rapport à la ligne des autres shonen. Déjà, les personnages de base ne sont pas très faibles, au contraire de la plupart des autres shonen. Ce sont tous des personnages relativement forts, qui ont... Bon, ils n'ont pas atteint le stade complet, ça leur permet une petite progression au cours des 25 tomes, mais pas si grosse que ça, comme on disait tout à l'heure. Ils sont déjà, dès le début, relativement forts. Par contre, ils ont souvent des gros problématiques, et souvent de termes émotionnels ou personnalité, en réalité, qui les empêchent de s'exprimer pleinement. Hein. On va avoir Black Star qui veut tellement être dans le show-off, dans le spectaculaire, dans le « je veux la pète », que du coup, il en foire la plupart de ses actions.
Pour un assassin, être « show must go on », c'est ça,
ça. Ça marche pas terrible. On va, et il est en plus soutenu par une arme qui, elle, est très timide et effacée, qui du coup n'arrive pas du tout à compenser son caractère. On va avoir le fils du coup du dieu de la mort. Alors lui, c'est pareil, c'est planté depuis le début. C'est le fils du dieu de la mort. Donc depuis le départ, c'est une divinité en devenir.
Déjà, tu te dis.
Il
n'y
a pas de surprise que lui, il est cheaté en fait depuis le début. Mais par contre, son caractère obsessionnel à outrance en font quelqu'un d'ultra maniaque et d'absolument inapte à réaliser la plupart des tâches qui lui sont confiées. Donc c'est plus, leurs problématiques ne sont pas uniquement dans une évolution de puissance brute, souvent pour pouvoir acquérir la puissance qu'ils ont déjà, il faut juste qu'ils évoluent sur un plan plus émotionnel. En fait, voilà.
L'émotionnel prend le pas sur la puissance, ça c'est assez fou, c'est bien fait.
Exactement, et du coup la folie vient... C'est un bon ennemi, la folie, parce qu'en fait, du coup, ça vient perturber justement ce fait que le fils du dieu de la mort était en train d'arriver à se soigner de ses maux et à devenir puissant, et paf, la folie s'en mêle et il redevient maniaque, il retombe dans ses travers. Donc la folie est le bon ennemi aussi pour celui-là.
Et quand on dit folie, hein, imaginez pas juste un gogol qui... Enfin, voilà, c'est la folie a mille et une formes. Hein, c'est, c'est, voilà, quand on dit folie, on a tendance à imaginer...
non mais là, par exemple, la maniaquerie poussée à l'extrême, c'est de la folie, oui.
Voilà,
c'est
ça, quoi.
Exactement, tout à fait. Et en plus, le grand dévoreur, du coup, c'est comme ça qu'il est nommé, hein, le méchant Azura ultime, qui est l'incarnation de la folie, a vraiment des styles graphiques oufissimes. Hein, et... Tout ça en gardant la petite touche d'humour, toujours bien dosée, toujours bien sortie, par ce ton très décalé avec l'univers classique des shonen. Et il va jouer avec tous les codes, mais tous. Même le fameux petit ecchi, la scène un peu dénudée, vous savez, qu'on retrouve dans tous les premiers tomes de shonen, puis qu'elle n'arrive plus du tout. Lui, il va la garder tout au long de son œuvre, et il la sort toujours au moment les plus inattendus possibles. Dans les premiers tomes, il pose le décor, on est en pleine scène de combat, très sérieuse, il évite tous les dialogues, ah ça c'est très bien aussi, il évite les dialogues interminables de combat, non, une horreur
au début du combat qui explique
voilà, où il t'explique à présent tout, sauf Black Star qui justement est celui qui veut tellement se la péter qu'il explique tout, donc il est en lui-même une caricature de l'une des mécaniques du shonen, ce qui est déjà très intéressant.
D'accord.
Et du coup, en plein milieu d'un combat, il y a un mec qui se retrouve propulsé à travers une fenêtre, il tombe sur une meuf à moitié dénudée qui se trouvera être un personnage hyper important, et la scène n'a aucun rapport, elle brise complètement le rythme du combat, elle est totalement décalée, hyper drôle, et il va jouer comme ça avec chacun des codes du shonen, en se disant, ben voilà, il faut que je casse ce genre de scène, parce que c'est un des codes du shonen, mais moi je vais le faire à ma façon, de manière complètement décalée, humoristique, what the fuck, avec la patte graphique qui lui correspond. C'est jusqu'au point que le soleil devient un élément d'humour, l'environnement parle au personnage quasiment, la mort elle-même, du coup, qui préside à l'école, est un personnage incroyable,
avec sa
gigantesque main qui distribue des baffes.
J'ai trois persos préférés, moi, j'ai la mort, le fils, et j'ai plus leur nom, c'est très longtemps que j'ai pas lu, et l'image d'avant, c'était le prof qui ressemble à...
Stein, ouais.
Voilà, et ça, c'est, en préférence de personnage, j'aime beaucoup. Ce personnage, hein. Son style,
il est génial, son style graphique est déjà
design est, je
excellent
le trouve assez fou, quoi.
Forcément, avec la grosse vis dans la tête qu'il arrête pas de tourner à intervalles réguliers quand il pète un câble.
Des fois tu te poses des questions, des moments t'es gentil mais t'es en folie toi-même et en doute régulièrement dans l'œuvre et c'est assez fou, quoi.
C'est vraiment très très bien.
Il y a plein de jeux de mots, c'est fou, oui.
Des jeux de mots infinis à faire. Du coup, voilà, bon, une œuvre
donc,
que je recommande parce
25
que 25
tomes,
avec,
et c'est fini, du coup, donc,
c'est fini.
C'est fini ou c'est...
Oui, c'est fini, il y a 8 ans.
Il est passé à une autre œuvre en fait entre les deux, qui s'appelle Fire Force, un truc comme ça, je sais plus du tout.
Je crois, et qui est assez cool, et on reconnaît sa patte direct.
Et qui est assez cool, voilà, exactement.
Un manga de pompiers, enfin, vous imaginez, mais pas plus fantastique que ça.
J'avais entendu parler de celui-là.
Et qui est assez sympa, en tout cas j'avais commencé à le lire, j'ai lu les premiers bouquins, et qui est assez sympathique, et on y retrouve sa patte graphique, on y retrouve moins ce côté, c'est-à-dire qu'il est plus rentré là dans un shonen classique. Il est un peu... enfin, je sais pas. Peut-être que cette œuvre, il a tout. Et une fois que t'es dans les rails, tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux parce que le but c'est que ça se vende et que tu manges le midi, le soir, le matin. Donc faut que ça se vende.
Moi j'ai lu que le premier tome et j'ai été d'accord avec ce que tu dis et l'ensemble à peu près des critiques, je crois, que j'ai jamais vues sur l'œuvre. C'est-à-dire que on se dit, ben, il est où celui qui nous a pondu Solitaire? Il est où le côté décalé, etc.
On retrouve visuel, on le voit cool. dans son dessin.
Voilà, mais il y a encore. On retrouve le trait, mais on retrouve pas le côté tellement fou qu'il y a dans Solitaire.
On retrouve le trait, mais pas le côté décalé.
Tu sais ce qui se passe? Maintenant, il est connu, il a pris un nègre.
C'est possible. C'est possible. N'empêche.
C'est possible, et faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui disent...
Que le travail éditorial l'a forcé.
Quand t'étais pas connu, enfin, c'est un peu ce parallèle des fois qu'on fait aux gens de YouTube ou autre. Quand t'étais pas connu, que t'en vivais pas, que tu faisais un peu ce que tu voulais, c'était fou. Depuis que t'en vis, ça reste très cadré. Mais quand ça devient encore plus professionnel et encore plus ta vie et encore plus dedans, parce que c'est bon, t'as fait un truc qui marche, donc maintenant t'as pas le choix d'enchaîner. Bah, mine de rien, les gens qui ont tenté un coup de génie, tu te dis, ça remarchera pas deux fois, je vais pas pouvoir à l'infini faire vivre ça, donc je suis obligé de rentrer dans les rails. Malheureusement, dans le créatif, tu peux pas enchaîner ce genre de choses. C'est rare.
D'ailleurs, on lui avait déjà demandé de faire le fameux Solitaire Note. Je sais pas si tu les as regardés. Qui sont une version spin-off de Solitaire.
Ouais.
Toujours à la même école, du coup. Et qui est très bof. Très honnête.
Mais Note, c'est-à-dire...
Note, c'est pour nul ou même totalement naze, globalement.
Oui.
C'est en gros, c'est les mauvais écoles, c'est les mauvais élèves de l'école, ceux qui sont à la ramasse, tu vois.
Ouais, c'est tu vois un peu le second personnage, mais il y a des un jour j'aimerais que tu nous parles parce que moi je sais que ça fait partie. C'est pas un shonen, mais c'est Death Note qui je trouve une approche assez cool. Enfin voilà, on vous présente pas Death Note qui est un succès fou, mais ce côté très court, on reste concis, on va à l'essentiel. Il y a que 12 tomes Death Note. Sur ce côté de, il y a pas besoin d'en faire 100 000 et on va à l'essentiel, ou même l'animé excellent, parce que là je pense qu'on va, tu vas nous parler un peu de l'animé de Solitaire.
Ouais, en 2-3 minutes à la
mais,
fin. Tout à fait.
Death Note qui est, je trouve assez, et je sais pas si la personne qui l'a fait, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Elle en a fait d'autres, hein, mais je.
Oui, elle en a fait d'autres, ouais.
Elle a fait d'autres.
Mais voilà, après le problème, il faut voir au Japon que là on parle et on raisonne beaucoup en mécanique européenne.
Ouais,
la mécanique éditoriale au Japon est très 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 particulière, hein. Et c'est extrêmement compliqué une fois qu'on est dans l'engrenage et dans le système de l'édition de manga au Japon d'arriver à s'en sortir et à faire ce qu'on veut. C'est une machinerie qui bouffe les auteurs. Hein,
faire réussir à se démarquer, c'est déjà ultra chaud. Et une fois qu'on t'a remarqué et que tu arrives à en vivre, c'est pas gagné pour toi non plus.
C'est très très dur. Donc du coup, c'est difficile de savoir pourquoi son œuvre suivante ne marche pas aussi bien.
Elle est bien, mais... moi je lis, je passe un bon moment.
C'est nul, hein. Je vous en parlerai à l'occasion quand j'en aurai lu plus d'un.
Mais vraiment, ce côté de tu la mets à part, tu la regardes, tu la contemples et tu fais... La Solitaire, tu le mets vraiment. Fire, je sais plus quoi là. Je suis même pas capable de te ressortir le nom. Alors que j'en ai, je
Force,
fais 10 tomes.
Fire Force, je crois.
Fire Force. Dans X années, on n'en reparle pas. Que là, Solitaire, on le relit. Fire Force, je suis pas sûr.
Moi, j'ai les 25 tomes et je le relis très souvent. Hein,
voilà, c'est
alors que j'ai pas encore réouvert le tome 1 de Fire Force.
On reviendra pas forcément dessus, même si c'est bien. C'est juste bien.
Exactement. Et alors, j'essaye de vous trouver, parce que c'est une grande force aussi de l'auteur, je pense qu'il faut en parler. Je vous ai pris le dernier tome comme ça, un peu au hasard, mais c'est ses combats, en réalité. Évidemment, dans les shonen, ça occupe une part très importante, les combats. Et,
les pif-paf-pouf, les fameux.
Les fameux pif-paf-pouf. Donc, on retrouve les attaques en très gros, du coup... Je sais pas si je suis bien cadré parce que j'ai pas mis mon retour cam, ouais. Mais on retrouve les attaques en très grosse, en double page, comme on a sur plein de shonen,
oui,
avec classique. Évidemment quand même la mise en page et le trait de dessin qui est assez incroyable de l'auteur. Mais on retrouve ça. Par contre, ces combats ont à côté un dynamisme et une pêche dans la mise en page et dans le fait qu'il n'y a pas les temps morts habituels du shonen. Et je voudrais vous montrer par exemple celle-là de double page.
Il y a 25 tomes. Hein.
Voilà, mais qu'est-ce que c'est bien foutu. Le découpage est dynamique, on a les visages extrêmement déformés, on passe sur des scènes très claires à des scènes très sombres sur la page d'en face. C'est vraiment, c'est explosif les combats.
Je pense que le fait que déjà que les armes soient des personnages joue beaucoup sur le fait que les combats soient vus différemment. Que tu vas prendre un Naruto ou autre, bah il jette un shuriken. Mais le shuriken, bah sauf si c'est un mec qui est transformé, mais ça arrive trois fois, ça reste un objet.
Alors moi, si je peux me permettre,
c'est une caution humoristique hein, parce que l'arme se fout de la gueule du combat à des moments.
J'ai pas lu moi Solitaire, mais du coup. J'arrive pas à me rendre compte là, les armes personnalisées. Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'elles ont des yeux, une bouche, elles parlent pendant le combat?
Non, en fait c'est un humain si tu veux, mais il se transforme en une arme.
En une faux, voilà. Et à toi, il est un morphine quoi.
Tu veux par exemple, il a un bras qui est juste la pointe de la faux, comme ça. Mais après c'est un humain.
D'accord.
En fait il change comme il veut quoi.
Il change comme il veut, autant qu'il veut de partie de son corps. Et en fait. Ils peuvent se battre tout seuls, comme leurs maîtres, qui sont appelés Meister, mais ils fonctionnent pas très bien, l'un et l'autre, tout seuls. Parce que l'arme, elle est quand même plus faite pour être arme, et le Meister est plus fait pour la manier.
Donc, et il y a des moments, justement, on va pas spoiler, mais des moments où justement, c'est remis en cause, c'est toi ma faiblesse, non c'est pas toi, on va changer, on va ci, on va ça. Et
L'adéquation des caractères, tout ça, c'est le côté équipe qui tient vachement à cœur à l'auteur. C'est assez important.
Et ça marche plutôt bien.
Et l'anime, ça marche alors, du coup.
Et alors l'anime, j'aimerais bien en dire quelques mots, parce que je l'ai vu beaucoup plus récemment. J'ai lu l'œuvre il y a quelques temps quand même, et je l'ai relu deux ou trois fois.
Mais l'anime, il ne suit pas, je crois.
Alors, on va en parler. Non seulement l'anime ne suit pas vraiment l'œuvre.
À part le début, déjà... où on va à des passages ici et là, mais comme beaucoup. En fait, ça a été Full Metal Alchemist, le premier.
Oui, exactement. Avant qu'il y ait le renouveau, tu veux dire.
Il y a eu Brotherhood après.
Exactement.
Mais ouais, ça a été le cas où ça te donne 2-3 infos, mais globalement,
c'est pas pareil.
Ouais, c'est ça. C'est un peu
et là, c'est pareil. Les premiers épisodes suivent un peu l'œuvre, plus du tout après. Donc ça, déjà, c'est très bizarre, surtout que le manga est vachement cool. On se demande pourquoi changer d'histoire, pourquoi ne pas suivre exactement l'œuvre. Et alors moi, ce que je vous recommande, c'est de voir le premier épisode, puis plus rien. Le premier épisode est fantastique parce que on retrouve déjà le character design. L'opening est cool, le character design très décalé, on retrouve un peu l'humour, un peu plus soft évidemment dans la version anime comme toujours, et on retrouve ce peps dans les combats. La faux, elle vole dans tous les sens, ça bouge vite, il n'y a pas de pause pour les dialogues pourris parce qu'il n'y en a pas dans l'œuvre. Il y a ce peps dans les combats. Et à partir du deuxième épisode, bah c'est naze, c'est hyper mou. Il est pas si vous le réalisateur.
Il y a 51 épisodes.
Hein, genre, il l'a confié à son fils tout d'un coup.
C'est peut-être pas les mêmes en fait. C'est peut-être
51
pas la même
épisodes
équipe.
En un an.
On a confié au mec qui était la star du coin de faire l'épisode pilote, puis après on a confié au stagiaire de faire tous les autres épisodes.
C'est possible.
Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Possible. Mais alors à partir du deuxième, ça devient nul, mais nul. Oh, une adaptation catastrophique de Solitaire. D'accord. En tout point.
Mais c'est pas donc, exclu que. Je vais donner un exemple qui est, enfin, où c'était nul et c'est passé à bien, de revenir un jour. Moi, je pense à alors Dragon Quest, qui a eu donc le manga Fly qui s'appelait Dragon Quest, la quête de Dai. Et il y avait eu un animé, je ne sais plus si ça s'appelait Fly aussi, qui était bof. Et là, je ne sais pas si c'est toujours en cours, mais il y a un animé Dragon Quest qui est récent et qui pète le feu de Dieu. Donc, il ne s'est pas exclu. Que qui reviennent en mode bon, il y avait de la merde. Le truc a marché. Je veux dire, c'est un très bon truc. Je veux dire, c'est une très bonne base sur laquelle se poser. On va se tirer les doigts du cul et on va refaire un truc correct qui va vraiment suivre les 25 tomes. C'est pas exclu.
C'est pas exclu. Donc, j'espère.
Moi, c'est très fou.
Parce que l'œuvre est géniale et mérite un anime à sa hauteur. Et là, c'est pas du tout le cas.
Captain Tsubasa alors, a été ressorti 3 fois. Hein, donc,
bien sûr. Helsing, si vous suivez l'anime d'Helsing aussi. Était ressorti 2 fois.
Ouais.
Et le premier qui avait même pas la même fin. Et bon, voilà. Helsing, je vais vous en parler aussi. Ça sera l'objet sûrement de ma prochaine chronique, d'ailleurs. Et je voudrais juste terminer sur un truc, du coup, pour conclure sur Solitaire. C'est le petit message éducatif qu'il arrive à faire passer un tout petit peu à travers l'œuvre, parce qu'au passage, il va quand même se servir de ce côté shonen, comme le disait Troyer, pour amener au grand public certains de ses messages. Donc il y en a certains que je vous laisse découvrir sur la folie, sur le traitement, tout ça. Mais par contre, il fait aussi passer pas mal de choses sur le côté étudiant, parce que ça reste quand même dans une école, même si au final, elle disparaît assez vite dans la tête des lecteurs. Et du coup, il en profite pour récupérer tous les caractères traditionnels qu'on peut avoir dans une classe. Et le fait que l'ennemi, ça soit la folie, il montre à quel point, quand une personne peut être isolée, décrier, juger sur quelque chose, ça peut la conduire à des extrêmes. Et du coup, au passage, il fait passer aux plus jeunes un message éducatif très simple, mais très bien amené dans l'œuvre, en tout cas.
Ouais, ça. T'as pas ce que, en fait, tu le vois. En fait, c'est à la fois tu le vois pas. Et enfin, je sais pas.
Tu y a le
pas,
sens.
C'est ça. En fait. T'es pas en mode ah, on est en train d'essayer de m'apprendre un truc.
Ouais, c'est ça. Et le message pédagogique est discret, mais très bien placé.
Ou alors c'est une seconde lecture. Je sais que, par exemple, je pense qu'aucun jeune de... aucun collégien ne le verra, mais le ressentira peut-être. Et après, en seconde lecture, en se reposant dessus ou autre, tu...
Ou juste en faisant le parallèle avec une scène de la vie quotidienne, tu vois. Genre, il voit le personnage de Krona, très isolé, qui s'isole elle-même, tout ce genre de choses. Et peut-être qu'en tombant sur une fille de sa classe qui a le même comportement dans le couloir, ça va lui faire penser et il va se dire « Ah tiens, si je me comporte comme ça, ça va être nocif pour elle. » Et c'est une bêtise, mais ça, c'est un message pédagogique qui sera très bien implanté.
Et ça tranche beaucoup avec le... On terminera sur le côté shonen qui est toujours ce côté qui est très bien aussi comme message, mais qui est toujours le même. C'est en général, si on te dit c'est quoi le message qui sort toujours des shonen, c'est il faut savoir se dépasser et être... Bon, c'est très bien. C'est un très bon message.
Et c'est justement pas le message de Soul Eater, et ça, c'est vraiment ce qui fait...
C'est bien que ça tranche parce que pas que le message de base est nul, c'est que c'est bien d'en avoir un autre.
Le message de Soul Eater.
Ah oui, on peut pas... à découvrir en lisant.
D'accord, ok, c'est un spoiler en fait.
Ouais. Ah, c'est un spoiler parce que
c'est un mix de plusieurs choses aussi. C'est là où tu parlais de folie et trucs. C'est dans les autres shonen, c'est juste le dépassement de soi et ça s'arrête là. Il y en a jamais d'autres. Dragon Ball, Naruto, One Piece, c'est toujours combat l'adversité, ce qui est très bien. Mais t'as genre qu'un seul message en fait. T'as personne d'autre qui s'est dit je vais tenter autre chose pour varier.
Là, il y en a plusieurs. L'esprit d'équipe en fait définitivement partie. Ça, c'est sûr et certain. Et le message principal, on peut pas vous le dire parce qu'en fait, c'est l'origine même du méchant et c'est donné dans le dernier tome.
Donc voilà, 25 tomes. Mine de rien, vous pouvez vous y mettre maintenant. Vous savez que vous aurez fini. Vous en achetez un. Allez, un par mois.
Maintenant, il existe en version intégrale qui est assez jolie d'ailleurs dans une bibliothèque. Bon, moi, je les ai pas parce que j'ai la version de base. Parce que ça fait le logo sous l'éditeur quand vous les mettez à côté. C'est plutôt sympa. Je crois que c'est regroupé par 4 tomes ou un truc comme ça par intégrale. Donc ça
sera peut-être moins cher du coup que d'acheter.
Voilà, beaucoup plus petit tome.
Parce qu'un tome de base, c'est 7 balles, on va dire, un manga, 6,50€.
Là, je crois qu'elles sont à 12 et vous avez 3 ou 4 tomes dans le...
Voilà, donc au lieu de payer 24€, ou non, même plus, 28, presque même 30 plus, balles, entre 20 et 30€, vous avez pour 12 balles. Donc,
un c'est conseil. Plutôt sympa.
Donc attendez toujours que tout sorte, petit, pour avoir des versions
de ce style. Et bien merci, Dalzin.